Le mot « apocalypse » est utilisé à tort et à travers, et à toutes les sauces. C'est même le nom d'une bière. Ce mot doit sa notoriété au fait qu'il est le titre du dernier livre du Nouveau Testament qui s'appelle « L'Apocalypse de Jean ». Il est vrai que quand on le lit, il faut penser aux effets spéciaux d'un film son et lumière, et à grand spectacle. Au début de ce livre, il est question de sept chandeliers, les mêmes que celui qui est mentionné dans le chapitre 24 du livre du Lévitique. Ces sept chandeliers représentent sept types d'églises qui sont appelées à rayonner et à donner l'éclairage divin autour d'elles. Je lis le passage du livre de l'Apocalypse où l'apôtre Jean est interpellé par le Christ ressuscité et glorifié qui marche au milieu des sept chandeliers. Je me retournai pour découvrir quelle était la voix qui me parlait. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait sept chandeliers d'or et, au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Dans sa main droite, il tenait cette étoile, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombis à terre comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu. Ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Les sept étoiles sont les anges messagers des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. À l'intérieur du tabernacle, le mobilier est très succinct. Il y a une table d'or devant le voile qui ferme l'accès au lieu très saint et sur celle-ci, le chandelier a sept branches. Et 12 pains frais. Dans les Écritures, l'huile qui alimente les lampes du chandelier symbolise le Saint-Esprit. Et la lumière et les pains représentent deux aspects de Jésus. D'ailleurs, lui-même a dit qu'il est le pain de vie et la lumière du monde. Je continue à lire dans le chapitre 24 du Lévitique. Tu prendras de la fleur de farine que tu feras cuire 12 pains de 6 kilogrammes chacun. Tu les disposeras en 2 rangées de 6 pains sur la table d'or pure devant l'Éternel. La préparation des pains est seulement indiquée ici, alors qu'il figure déjà sur la table d'or depuis le jour de la dédicace du tabernacle. Ces 12 pains représentent la nourriture qui soutient la vie. Ensemble, ils pèsent 72 kilos et sont devant l'Éternel pour lui rappeler les besoins des 12 tribus d'Israël. Bien que ce ne soit pas indiqué, ces pains sont sans levain, car toute trace de levain est proscrite dans le tabernacle. La table à pain est recouverte d'or, ce qui la rendit rituellement pure. Ceci est important, car sur la table sont déposés les pains qui annoncent la venue de Jésus. En effet, dans l'Évangile, il a dit « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Je continue le texte du Lévitique. « Tu saupoudras chaque rangée d'encens pur qui sera ensuite brûlé à la place des pains comme un mets consumé pour l'Éternel et qui servira de mémorial. Chaque sabbat, on disposera ces pains devant l'Éternel pour qu'il y en ait toujours. C'est une alliance qui lie pour toujours les Israélites. Ces pains reviendront à Aaron et à ses fils qui les mangeront dans un lieu saint. Car c'est une chose très sainte prélevée sur les offrandes consumées par le feu à l'Éternel. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité. L'encens est une sorte de colle naturelle inflammable. Sa composition est indiquée ailleurs. Selon la tradition juive, l'encens était dans deux coupes d'or. Chaque jour de sabbat, les pains étaient retirés et remplacés par d'autres tout frais. Parallèlement au fait qu'il représente les besoins des 12 tribus d'Israël et annonce la venue de Jésus, c'est par appel les bienfaits reçus de Dieu pendant la semaine écoulée et consacre le travail de la nouvelle semaine des Israélites. Au moment du remplacement des pains, l'encens est consumé, ce qui rappelle à l'Éternel que l'offrande des pains a été faite selon la loi. Ces pains sont la part que Dieu prélève pour lui-même sur les aliments du peuple. Par conséquent, ils sont donnés aux prêtres qui les mangent dans un lieu rituellement saint. Je continue le texte. Le fils d'une femme israélite et d'un père égyptien s'avança parmi les Israélites et se disputa dans le camp avec un homme israélite. D'après l'histoire de l'Exode, un certain nombre d'étrangers s'étaient joints aux Hébreux lors de leur sortie d'Égypte. Or, en général, ces personnes étrangères ont une mauvaise influence sur le peuple de Dieu. À ce sujet, l'apôtre Paul écrit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Comme les Israélites campent selon leur appartenance tribale, les étrangers forment un groupe à part qui habite hors du camp d'Israël. On peut donc facilement comprendre que ce jeune homme, n'ayant pas de place au soleil dans une société très hiérarchisée, est aigri et envieux. Il dépend des Israélites, mais les hait à cause de sa situation de sans-papiers, pourrait-on dire. Je continue notre texte. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom par excellence. Alors, on l'amena devant Moïse. Sa mère s'appelait Shélamite. Elle était la fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit sous bonne garde en attendant que l'Éternel leur communique sa décision. Ce métis, issu d'un mariage mixte, exprime son amertume en s'en prenant au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il blasphème le nom par excellence, c'est-à-dire Yahvé, qui en hébreu est un tétagramme, c'est-à-dire qu'il est formé de 4 consonnes. On sait d'après la suite que plusieurs ont entendu le blasphème de cet homme et ont dû le rapporter à Moïse qui a mené une enquête. Il est probable qu'au moment de l'Exode, la mère israélite a quitté l'Égypte avec ses enfants, tandis que le père est resté dans son pays. Alors ce garçon en veut certainement à sa mère de l'avoir emmené avec elle. Il regrette l'Égypte et n'a que mépris pour les Israélites et leur Dieu. Et pourtant, tout comme eux, il a vu les manifestations extraordinaires de l'Éternel. Malheureusement, cela n'a pas l'air d'avoir eu un impact positif dans sa vie. Comme quoi, de voir des miracles ne produit pas la foi. Ce que confirment d'ailleurs plusieurs passages du Nouveau Testament. Cette histoire souligne également les problèmes potentiels liés au mariage entre un croyant au Dieu de la Bible et un incroyant, qu'il soit religieux ou libertin. Ce blasphème est évidemment très grave et un crime de lèse-majesté pour lequel il n'existe aucune réparation, aucun sacrifice d'expiation pour le couvrir. Dans la loi, il est dit « Tu n'insulteras pas Dieu ». Oui, mais aucune sentence n'est prévue si le coupable est moitié israélite et moitié étranger. Moïse se trouve donc confronté à une situation embarrassante. Si cet homme était un pur Israélite, il serait lapidé sur le champ. Au lieu de cela, on met le coupable aux arrêts en attendant que l'Éternel se prononce sur son sort. Je continue le texte. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. fait conduire le blasphémateur hors du camp. Tous ceux qui l'ont entendu imposeront leurs mains sur sa tête. Ensuite, toute l'assemblée le tuera à coups de pierre. Les témoins du blasphème doivent poser la main sur la tête du coupable pour le charger légalement de cet acte vil dont il se trouve être, en quelque sorte, les dépositaires. La sentence est immédiatement prononcée et exécutée. Il n'y a ni procès, ni avocat, ni appel, ni vice de procédure. On ne tergiverse pas. La justice est assimilée à la parole de l'Éternel et est, c'est le moins qu'on puisse dire, expéditive. Aujourd'hui, en Occident, on est devenu très doux et compréhensible à l'égard des criminels d'ordre et très soucieux de leur bien-être. Alors, on les chouchoute parce qu'il est admis que l'homme est foncièrement bon, mais commet des erreurs. L'enseignement des Écritures dit exactement le contraire. L'homme est foncièrement mauvais. Suite à cet incident fâcheux, l'Éternel va ajouter une nouvelle série d'ordonnances applicables à tous, étrangers et israélites. Je continue le texte. Tu diras aux Israélites, quiconque maudira son Dieu portera la responsabilité de sa faute, et celui qui blasphème au nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute la communauté le lapidera, qu'il soit émigré ou autochtone. Il mourra pour avoir blasphémé le nom par excellence. Celui qui maudira sa divinité, quelle qu'elle soit, en pâtira d'une manière ou d'une autre. Aucun châtiment n'est mentionné parce que c'est pas le vrai Dieu qui est insulté, mais une idole quelconque. Par contre, s'il s'agit de l'Éternel, dont le nom est blasphémé, alors cette personne doit être mise à mort, quelle qu'elle soit, et c'est au peuple d'exécuter la sentence au nom de l'Éternel. À cause de ce passage, et après être revenus de l'exil babylonien, les Juifs ont décidé qu'ils ne devaient jamais prononcer le nom personnel de l'Éternel, qui est le tétagramme Yahvé. Aussi, toutes les fois qu'ils le rencontrent dans le texte de l'Ancien Testament, il le remplace par Seigneur ou Dieu au sens générique de divinité. Pourtant, il n'est dit nulle part qu'il est interdit de prononcer le nom de l'Éternel. Par contre, le blasphémé est évidemment interdit et est puni de la peine capitale. Bien sûr, prendre le nom de Dieu en vain est aussi une faute très grave. Je continue notre texte. Celui qui tue un autre homme sera puni de mort. S'il fait périr un animal d'autrui, il le remplacera selon le principe. Une vie pour une vie. Si un homme inflige une blessure à son prochain, on agira à son égard comme il a agi lui-même. Facture pour facture, œil pour œil, dent pour dent. On lui infligera la même blessure qu'il a portée à son prochain. Donc, celui qui fait périr un animal le remplacera. Et celui qui tue un homme sera puni de mort. Vous appliquerez le même jugement aux étrangers et aux autochtones, car je suis l'Éternel, votre Dieu. La loi du talion est mentionnée pour la première fois dans le livre de l'Exode. Mais dans la situation très particulière où deux hommes se battent, bousculent une femme enceinte et la font accoucher prématurément, je lis le passage. Si des hommes, en se battant, heurte une femme enceinte et cause un accouchement prématuré, mais sans qu'il y ait d'autres conséquences graves, l'auteur de l'accident devra payer une indemnité dont le montant sera fixé par le mari de la femme et approuvé par arbitrage. Mais s'il s'ensuit un dommage, il fera payer vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion. Ici, la reprise de la loi du talion œil pour œil, dent pour dent, a pour objet d'étendre son champ d'application. Cette formulation concrète et frappante demande à ce qu'il y ait une juste correspondance et proportionnalité entre la faute commise et son châtiment. La loi du talion répond donc aux exigences de la justice divine telle qu'on la trouve énoncée dans la loi de Moïse. Le coupable ne peut pas échapper à la rétribution qu'il mérite. Il doit payer pour ses fautes, mais pas plus et pas moins. La loi du talion sanctionne des blessures ou mutilations infligées à autrui de manière volontaire et délibérée. Elle ne concerne donc pas les actes accidentels et homicides involontaires. Ce principe était universellement pratiqué dans l'Antiquité. Il faut cependant noter que les lois pénales des autres peuples du Proche-Orient ancien étaient généralement moins sévères que la loi de Moïse pour les attaques contre les personnes et plus dures pour les atteintes aux biens. La sanction implacable à l'égard de celui qui blesse ou tue volontairement montre l'importance que la loi divine attache à la personne humaine. Ici, une grande leçon morale est enseignée. Le nom de Dieu, ainsi que les êtres humains, sont sacrés et doivent être protégés. En Israël, les étrangers étaient soumis aux mêmes sanctions pénales que les Hébreux. Mais en contrepartie, ils jouissaient des mêmes protections et avaient droit aux mêmes dédommagements que les Israélites. Je finis le chapitre 24 du Lévitique. Moïse parla aux Israélites, et ils firent sortir le blasphémateur du camp. Ils le tuèrent à coups de pierre, appliquant ainsi l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Après que l'Éternel ait statué concernant ce blasphème, le coupable est exécuté. Cette anecdote donne un air d'historicité à une note d'authenticité à cette histoire et aux pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert. En effet, la loi fut donnée en bride et s'étend sur plusieurs livres écrits par Moïse. Ces ordonnances ont un caractère décousu car elles sont complétées au fur et à mesure qu'on avance dans le récit et en fonction des circonstances rencontrées. Cette particularité, qui rend difficile une compréhension et une vision globale de toute la loi, va complètement à l'encontre de la théorie qui dit que la législation de Moïse fut inventée par la prêtrise israélite quelque temps après le retour d'exil qui se situait à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, dont environ 9 siècles après l'époque de Moïse. Nous arrivons maintenant au chapitre 25 du Lévitique. Jusqu'à présent, ce livre, dont le thème est la pureté rituelle et morale, a énoncé des règles concernant les sacrifices et l'offrande du sang, la sainteté du peuple, dans tous les domaines de sa vie, religieuse, sociale et personnelle, comme le mariage et la sexualité. La loi s'est aussi adressée aux prêtres dans l'exercice de leurs fonctions et dans leur vie privée. Elle a traité les offrandes et les assemblées solennelles, la sainteté dans la façon de célébrer les cultes et le respect des personnes et du nom de Dieu. Maintenant, il va être question de certaines années qui doivent être reconnues comme sacrées, mises à part pour Dieu. Ce sont les années sabbatiques et la fête du jubilé. Le mot « terre » et « pays » apparaissent fréquemment. Les préceptes contenus dans ce chapitre concernent Israël une fois que la nation sera installée en Palestine. Je commence à lire le chapitre 25. Sur le mont Sinaï, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Dis aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays que je vous ai donné, la terre elle-même se reposera. Pour l'Éternel, vous la laisserez se reposer pendant 6 ans. Tu ensemeras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras les produits. Mais la 7e année sera un sabbat, une année de repos pour la terre, on la laissera se reposer en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Les Hébreux divisent le temps en 7 unités, autant dans l'année civile que pour les cérémonies de fête. C'est ainsi qu'on a le 7e jour, la 7e semaine, le 7e mois et la 7e année. Le calendrier est structuré autour des sabbats, un jour sur 7. Ici, tous les 6 ans, il faut faire reposer la terre. Le sol ne doit pas être cultivé, ni la vigne taillée. Tout doit être laissé en friche. Ce qui pousse tout seul, sans avoir été planté, n'appartient pas au propriétaire du terrain, mais est à la disposition de tous, riches et pauvres. Ce repos sabbatique commençait en automne et coïncidait avec la fin des récoltes annuelles de la 6e année, et aussi avec le commencement de l'année civile du 7e mois. Il durait jusqu'à l'année suivante au moment où avaient lieu les semailles de l'année nouvelle. Cette loi est particulière au peuple juif. L'historien romain Tacite, ne voyant pas plus loin que le bout de son nez, l'attribue à la paresse. Ce temps mort a un but utilitaire, car la terre a besoin de se reposer, tout comme l'homme qui la travaille. Nous savons maintenant qu'à long terme, une telle pratique produit des récoltes plus abondantes et de meilleure qualité. Une année sabbatique donne à ceux qui travaillent la terre l'occasion de souffler et de faire autre chose. C'est aussi une antidote contre l'appât du gain pour les gros propriétaires terriens. Les Israélites violèrent cette loi pendant 490 ans. Comme ils n'ont pas respecté 70 années sabbatiques, l'Éternel les a obligés à réparer le dommage subi par la terre en les forçant à le laisser se reposer pendant 70 ans, ce qui correspond à la captivité babylonienne. Leur désobéissance concernant les années sabbatiques est l'une des causes, mais pas la seule, de la déportation du royaume de Juda. Je continue le texte. Tu ne moissonneras pas ce qui poussera tout seul de la moisson précédente, et tu ne vendangeras pas les raisins de la vigne non taillée, afin de donner une année de repos à la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre produira pendant son temps de repos. Toi, ton serviteur, ta servante, ton ouvrier journalier et les étrangers résidant chez vous, ainsi que ton bétail et les animaux sauvages qui vivent dans ton pays. Tout produit des terres le servira de nourriture. La terre d'Israël a un climat chaud et elle est tellement fertile qu'après 6 ans, il n'y a pas besoin de planter pour récolter. Même le bétail peut survivre en se nourrissant de ce qu'il trouve dans les champs en friche. La communauté profite ensemble, dit-on de Dieu. L'Éternel s'occupe pareillement des animaux et des hommes, riches ou pauvres, autochtones ou étrangers, pendant cette année de repos. À l'époque d'Abraham, dans la vallée de l'Euphrate, les gens ne semaient pas car les céréales poussaient toutes seules. Cette loi, prescrivant le repos des champs et des vergers, enseigne qu'on doit respecter la terre et ne pas provoquer l'épuisement des sols par une exploitation intensive. Nous avons ici un principe écologique des plus modernes.